De passer à la prochaine conférence de Camille Borgé, maître d'enseignement des recherches à l'école de français et langue étrangère, qui est donc docteur à l'université de Grenoble, spécialiste du SLAM. Donc nous commençons, si vous voulez, la deuxième partie qui est effectivement consacrée au SLAM avec Camille d'abord, Camille Borgé, et puis Judith Méry-Bruno de nouveau. Donc, Camille est effectivement spécialiste, auteur de plusieurs ouvrages sur l'islam, entre autres, et avec un souci de didacticienne, notamment pour le français et langue étrangère, mais non seulement. Merci, Camille.
Alors, merci beaucoup aux organisateurs de cette belle journée. Je suis très heureuse d'y participer. Merci à toi pour ta présentation, Chiara. Pour faire la transition avec Violetta, je vous propose d'entrer en matière avec un vidéo-poème. Alors, c'est la seule vidéo que je vous montrerai. Et on est d'accord sur le fait qu'il ne s'agit pas véritablement de slam, mais simplement du vidéo-poème d'une slameuse. Mais ça me permet vraiment d'entrer en matière sur le sujet dont je vais vous parler ensuite. Alors, je vais vous en faire écouter un extrait de 3 minutes qui correspond justement au format d'une scène slam. Mais en fait, j'ai choisi ces 3 minutes parce qu'il présente 3 langues différentes. Je ne vais pas vous le montrer intégralement parce que je n'aurai pas le
temps. Excusez-moi. Deja caer mi
edificio.
Dejar de ser poeta, porque en todos mis poemas se muere y es incómodo. La misma música, la misma palabra otra vez volviendo, el giro de muñeca que la ancla al papel. Escribo para quitarle alas a las plantas de mis pies, para entender el vuelo y secar al aire las secuelas de mis plumas. Escribo para escapar del nido en el que espero la mano que me tiende el alimento, así como en las cárceles, así es el miedo. Escribo. Para pensar el eje de mi máquina, para explicar cómo funciona. Escribo un manual en varias lenguas que no entiendo, que no entenderé después. Subo a los balcones, arranco las páginas. Pregunto si alguien puede desplazar el frío, la ruta de mis pájaros, alejarme de la infancia y aprender a llorar los cuerpos abandonados bajo tierra. Como único consuelo, mi recuerdo, hasta que yo termine. Siempre fuera quedaron
escrito. To say something nice and then breaks all of my bones. Let my breathing fall. Stop being a poet because we die in all my poems and it's uncomfortable. The same music, the same word returning again, the tone of the breeze which anchors you to the piper. I write to remove wings from the soles of my feet. To understand flight and ride the effects of my feeders. I write to free the nest in which the hands that feed me waited, as in prisons that was fear is like. I write to balance the axle of my machine, to explain how it works. I write a manual in various languages I don't understand, which I won't understand later. I clamber to the balconies, I jot the pages. I ask if someone can, this place I called my best route. Distance myself from infancy and learn to cry for the bodies abandoned on the ground. As my only consolation, my memory, until I finish, what's written will always remain outside. Dire quelque chose de bon et après me casser à nous. Laisser s'effondrer mon bâtiment, laisser tomber la poésie, car dans tout mon poème, on meurt et c'est gênant. La même musique, les mêmes mots qui reviennent. Le coup de poignet qui l'attache au papier. J'écris pour ôter le sel aux plantes de mes pieds, pour comprendre le vol et sécher au vent la séquelle de mes plumes. J'écris pour échapper du nid où j'attends la main qui me donne à manger, tout comme dans la prison. Voici la peur. J'écris pour centrer l'axe de ma machine, pour expliquer comment ça fonctionne. J'écris un manuel dans plusieurs langues que je ne comprends pas, que je ne comprendrai plus après. Je rampe sur le bal.
Alors, je voulais m'arrêter ici, voilà, parce qu'il s'agit de cette citation que j'ai mise en exergue de mon exposé, donc que j'ai traduite ici, selon la façon dont elle l'a elle-même traduite. J'ai écrit un manuel dans plusieurs langues que je ne comprends pas, évidemment avec le double sens sur « entend », hein, qu'on peut entendre aussi en français. Il s'agit donc de Sylvia Nieva, qui est une slameuse madrilène, et j'ai choisi cet exemple pour entrer dans le vif du sujet, parce qu'il me semble que le slam peut être appréhendé comme un dispositif particulièrement hospitalier, accueillant à une multiplicité de langues et de variations langagières, et donnant lieu à diverses formes de créativité. Il existe d'ailleurs des slams internationaux, comme le slam d'Europe, avec des performances en français, en anglais, en espagnol, en allemand, qui sont sous-titrées en français. Ici, je n'ai pas déroulé l'ensemble du poème, mais par la suite, elle le déclame aussi en grec moderne et en langue des signes. Où là, elle fait appel, par contre, à une personne extérieure qui n'est pas elle-même, puisqu'elle-même ne maîtrise pas la langue des signes. Plus généralement, on peut dire que nombre de slameurs et de slameuses s'avèrent désireux de performer sur scène leurs identités plurilingues, ce qui peut aboutir à des mises en forme médiatisées comme celle-ci, comme celle de Sylvia Nieva. Soit dit en passant, il me semble important de souligner que dans ce clip, dans ce vidéo-poème, on a la mise en évidence d'un imaginaire de l'écriture qui tranche avec la représentation habituelle d'une genèse qui est de l'ordre de l'intime. Ici, d'une certaine façon, le matériau génétique s'expose, voire s'exhibe. On voit plusieurs fois ces carnets qui sont justement en devenir, en quelque sorte. C'est vraiment une écriture en direct. Et ça me semble intéressant dans la perspective de ce que j'appelle l'écriture partagée, qui est au cœur de l'expérience des ateliers slam. Dans une perspective didactique, les potentialités du slam envisagées comme atelier de poésie orale m'apparaissent vraiment fécondes. Je vais essayer de vous en rendre compte ici. Donc je m'attacherai dans cette communication à présenter, à analyser essentiellement une double expérience. Après avoir justement illustré ce potentiel plurilingue qui me semble intéressant par rapport au slam, d'une part une activité qui s'intitule le concert de mots, que j'ai intitulé comme tel, je vous expliquerai pourquoi ensuite, que j'ai proposé aux étudiants de l'école de français langue étrangère de l'université de Lausanne dans le cadre d'un cours optionnel que j'ai intitulé « Écrire et dire ». Il s'agit d'un cours qui se présente comme un atelier d'écriture et d'interprétation. Et puis d'autre part, cette autre activité qu'on a appelée avec Sylvia Camello, qui était l'intervenante, qui s'appelle Babel Slam et qui explique ici le titre de ma communication. Donc j'y reviendrai. Cette slameuse et conteuse se présente comme slamalgameuse de langue. C'est pourquoi j'ai choisi ici de parler aussi de cet atelier. Je vais essayer de passer assez vite parce que je sais que le temps est assez bref. Donc j'essaierai de montrer les enjeux des alternances codiques dans le contexte du slam en particulier. Donc je vous montrerai plusieurs extraits et la façon dont elles peuvent se développer dans le contexte d'un atelier slam, donc à travers ces deux exemples, c'est-à-dire au travers des collaborations établies entre les participants, entre des participants de langues maternelles différentes, du fait d'un dispositif favorisant l'émergence de cette dynamique collective plurilingue, tout en permettant à chacun de trouver sa place en tant que sujet écrivant et disant. Le slam, lieu d'une écriture partagée, apparaît ainsi comme un espace-temps favorable à une créativité multilingue et multimodale, même si ici je n'entends pas par multimodal la même réalité, je n'entends pas au sens numérique ici, j'entends plutôt par multimodal les aspects justement liés au corps et à la voix, et je n'aborderai guère cet aspect-là dans la présente communication. Donc j'emprunterai ici pour définir, pour mieux appréhender le slam dans ce potentiel plurilingue, le dire des slameurs eux-mêmes, c'est-à-dire leur voix, et avec l'exemple du célèbre Grand Corps Malade, son texte particulièrement connu pour cette formule assez paradoxale « J'écris à l'oral », album qui date de 2008 et qui présente un paradoxe tout à fait définitoire de cet art qui a l'oralité pour horizon, et qui a la scène et le public pour horizon, mais qui est généralement écrit dans sa genèse, comme vous pouvez le voir avec l'exemple de Bastien, qui écrit véritablement en direct. Il me semble que ce paradoxe est particulièrement intéressant pour l'interface qu'il offre entre littératie et oralité, et je pense que didactiquement, ça peut être intéressant de le souligner. Il faut savoir que les improvisateurs sont très rares dans le slam francophone, puisque la plupart écrivent sur des carnets, comme c'est le cas ici pour Sylvia Nieva, qu'on voit en train d'écrire sur son carnet, ces carnets étant de véritables laboratoires d'une poésie vivante, qui regorge justement de créativité. C'est en ce sens que je parlerai ici d'avant-dire, un peu plus ultérieurement dans ma communication, au sens génétique de ce terme, puisqu'il s'agit plus proprement d'avant-dire que d'avant-texte. Je reviendrai ici sur la formule de Grand Corps Malade. Quelques instants après, j'ai déterré l'encrier, dans la voix l'encrier. Il me semble qu'il y a ici, là encore, un paradoxe intéressant, une image à la fois poétique qui rejoint d'une certaine façon le propos de la poésie sonore. Et c'est un autre slam qui fait figure à mes yeux de manifeste poétique, c'est ce slam d'Ivy qui s'intitule « Dire », le slam étant évidemment un art du dire. Et j'ai relevé cette formule qui dit « dire directement sans salmigondir ». Il s'agit de ce qui s'appelle un amalgame lexical, qui combine Salmigondi et Dir, que je trouve intéressante pour toutes les images qui surgissent justement par rapport à la mise en bouche, d'une certaine façon. Il me semble qu'il y a là tout le potentiel expressif et créatif du slam qui s'exprime comme une expression brute sans détour, mais néanmoins riche en détournements et autres procédés de création lexicale, tels qu'ici le procédé qu'on appelle de mauvalisation. Je vais vous faire écouter un petit extrait pour montrer une première alternance codique. Donc, extrait de ce slam d'Ivy Dir. C'est le début, en fait, mais j'ai fait apparaître ici un extrait.
La mort vienne nous réduire ce que la vie aura voulu nous dire du tout au tout sans jamais défaillir. Dire qu'on s'endort en plein après-midi, qu'on travaille trop, c'est pas nouveau à dire, qu'on cherche encore un coin de paradis. Rapidement, c'est bon pour le cardio. Quoi qu'au micro, c'est un peu idiot. Dire des gros mots pour se faire applaudir, tourner les coins ronds, espérer arrondir la fin du mois et le début de nourrir tout son sou. Surtout quand c'est pas fake, ça vaut le coup, ça vaut un steak. Dire le petit enfant combien il va grandir, la belle balle apprendra à rebondir, qu'il n'était pas plus grand que mon avant-bras, et dire que bientôt il m'arrivera là, ou là, ou là là là, human, step by, bye, baby, tombait, bye.
Voilà, je m'arrête ici, vous comprenez pourquoi, évidemment, c'est non seulement l'alternance codique qui m'intéresse parce qu'elle attire l'oreille, mais surtout pour son mimétisme sonore qui crée un écho, un rebond, ce que j'analyse en termes d'esthétique du ricochet. Hein, d'une certaine façon, la balle rebondit et est lancée aussi à l'auditeur ou au récepteur en tout cas. On imagine d'ailleurs aisément le geste qui peut accompagner ce rebond sonore tout en soulignant le flow du poète. J'ai mis un autre extrait, mais que je commenterai très peu parce que le temps court, simplement pour montrer que l'alternance, enfin en tout cas ici la présence d'emprunt, peut vraiment être mise au service d'un enchaînement de rimes et d'autres procédés de type jeu de mots, pour utiliser un terme générique. Pour résumer, on peut vraiment appréhender le slam comme un art du dire, comme une poésie humaine plus qu'urbaine à proprement parler, par essence orale voire sonore, par nature mouvante et nomade, comme l'illustre cet autre slam de Grand Corps Malade, pardon, qui s'intitule justement « À Montréal » et qui intègre au gré du flot du slameur de Saint-Denis des québécismes. Donc vous les voyez ici, et justement Grand Corps Malade a écrit dans ce texte « Je me sens bien dans ces différences, je suis un enfant de toutes les villes ». Et ça me paraît important justement de souligner cette ouverture à toutes les variations langagières. À l'instar du rap que la sociolinguiste Jacqueline Billiez a pu appréhender sous l'angle de l'alternance des langues en chantant, je cite ici le titre de l'un de ses articles en 1998, le slam apparaît comme un terrain, voire un terreau, pour cultiver un dire plurilingue, et force est de constater que les alternances codiques sont largement aussi fréquentes dans le slam qu'elles ne le sont dans le rap, qu'il s'agisse de micro ou de macro-alternances. Certains poèmes peuvent alors permettre d'ouvrir ce que j'appelle un horizon d'écoute ouvert à tous les possibles linguistico-culturels, à commencer par ce poème de Souleymane Diamanka qui est issu de son premier album intitulé « Liverpool » et qui, dans ce titre éponyme, justement, offre un aperçu sonore en guise d'ouverture. On voit, alors je ne vais pas pouvoir vous faire écouter ce texte-là, mais j'ai fait apparaître en vers justement ce qu'on peut identifier comme des micro-alternances au sens où il s'agit évidemment de noms, puisqu'il décline ses identités. Mais dans cet extrait, on est vraiment pris dans la musique de la langue peul. Il me semble que plus que la musique des lettres, je reprends ici le titre d'un autre slammer qui s'appelle Rouda, c'est vraiment la musique des langues qui se fait entendre ici au travers de cette voix d'un poète déclinant les noms et prénoms de ses ancêtres. Il s'agit là, me semble-t-il, d'un bel exemple de cette traversée matérielle des langues que définit Christian Prigent. D'ailleurs, il est assez révélateur que ce slammer, Souleymane Diamanka, se soit livré à une sorte de duo avec un autre slammer et rappeur d'origine polonaise qui s'appelle John Banzai. Et ces deux artistes ont en fait procédé lors d'une performance à deux voix intitulée Le meilleur ami des mots à un échange de leurs langues maternelles respectives, le peul et le polonais, donc, ce qui donne lieu à une joute assez étrange. écriture ludique, que je qualifie même de co-ludique, au sens où vraiment il y a cette construction duelle, un peu en écho et en ping-pong. Jeu dialogique que le poète sénégalais nous a expliqué en ces termes. Vous comprendrez pourquoi j'ai mis certains extraits en italique pour justement les mettre en exergue. Je m'adresse à lui en peul, il me répond en polonais, puis on inverse, je parle polonais, il me parle en peul. Après, on parle en même temps, sauf que la phrase commence en peul et se termine en polonais. Les deux trucs se fondent, les deux langues se fondent l'une dans l'autre, et les gens ne savent plus ce qu'ils sont en train d'entendre. Des fois, tu as des sonorités qui sont proches. Le mot leki en polonais, ça veut dire médicament, et en peul aussi. Il y a des magies comme ça. J'en arrive à ce premier exemple, justement, de concert de mots, pour le coup, plurilingue, où là, je suis partie d'une formule utilisée par la slameuse Laureline Kunz dans une interview où on lui demande qu'est-ce que c'est que le slam. Elle dit finalement, c'est un concert de mots. Donc, on s'est inspiré justement de cette idée pour proposer une fiche dans l'ouvrage intitulé « Jeux de slam », coécrit avec Dominique Abri et Katia Butchueva. Et l'activité donc, que j'ai pu mettre en œuvre dans le cours que j'évoquais tout à l'heure a donné lieu justement à un concert de mots à partir d'un corpus. Il s'agissait en fait d'un corpus de mots collectés autour d'un verbe syllabe à la manière de dire, donc autour de ce mot qui se prête à de multiples combinaisons que les étudiants avaient choisies. Ils devaient chercher des mots dans plusieurs langues en s'inspirant évidemment de leur langue maternelle. Ils avaient droit aussi d'inventer certains mots et je leur ai proposé le support des post-it pour mettre en forme ce que j'appelle justement, enfin ce qu'on appelle en études génétiques, un avant-dire. Donc, en fait, les apprenants ici, je m'arrêterai à ce stade-là, ça a donné lieu à une création vraiment poétique, mais ici, je me limite vraiment à cet aspect de concert de mots, c'est-à-dire simplement une interprétation oralisée et rythmée de ces mots qui figurent sur les post-it et qui ont été collectés dans chaque groupe. L'objectif ici était de sensibiliser les apprenants à la matière sonore de ces mots en les amenant à oraliser dans un même flot des mots issus de langues différentes qui pouvaient néanmoins se faire écho. Cette activité a donné lieu à une dynamique créative remarquable puisqu'un groupe s'est livré à un très beau concert autour du verbe rire, c'est cet avant-dire que j'ai montré ici, avec de multiples reprises par homophonie partielle qui n'allait pas sans difficulté de prononciation pour certains étudiants lusophones, hispanophones, puisque vu la récurrence du R. Aux voix qui fusaient, se superposaient, rebondissaient, s'est ajouté un pandero, puisqu'un étudiant ce jour-là avait cet instrument dans son sac et qu'il a donc pu se livrer vraiment à une interprétation musicale, ce qui a donné non seulement une couleur culturelle intéressante, mais qui a aidé les étudiants à trouver une rythmique. Puisque ici j'ai cité Méchonique, ça me paraît assez essentiel de souligner dans cette émergence d'un rythme collectif, à travers la cadence, justement, l'émergence aussi de la collectivité. Comme la collectivité est rythmique, le rythme engendre la collectivité. Finalement, les étudiants se sont ici livrés à une recherche, une forme de composition ou d'arrangement sonore, une composition de mots qui ne sont pas vraiment séquencés sur l'axe syntagmatique, mais qui sont néanmoins cadencés. Et ils ont accédé ainsi à un rythme commun. Ce qui m'intéresse ici dans cet avant-dire, c'est qu'il représente une sorte de représentation cartographique du concert de mots à venir. Les couleurs distinguent les langues des mots collectés et aussi le rapport à la norme, puisque certains sont vraiment inventés. Et on voit aussi le sens des post-it qui indique finalement une forme de circulation de la parole, puisque les étudiants étaient placés en cercle autour de ce support commun. Alors on a bien sûr la difficulté à se détacher du sémantique. On voit que certains étudiants ont cherché une traduction du mot dans leur langue maternelle, ce qui n'était pas le but. Mais je crois que c'est normal aussi de se heurter à cette difficulté-là. J'en arrive à cet autre exemple que je distingue ici d'une simple activité, puisque je parle vraiment d'atelier au sens fort de ce terme. Et je vous invite à consulter à ce sujet les carnets de thèse d'Olivier Mougineau. Il a une thèse en cours sur les ateliers du dire. Et je trouve que vraiment le terme d'atelier mérite une réflexion. Ici, il me semble qu'il y a une connotation très importante de fabrication en lien avec l'origine de ce terme du verbe poyen, finalement, qui a une connotation très matérielle. Donc l'idée de travail d'une matière concrète. Et le slam se définissant par la scène et par la présence physique d'un poète sur scène, il me semble qu'un atelier à proprement parler qui ferait référence au dispositif slam ou à cette posture suppose vraiment l'intervention d'un slameur ou d'une slameuse. Ici, il s'agit de Sylvia Camello, dont je vous ai parlé, qui présente la particularité d'être bilingue puisqu'elle est d'origine colombienne et qui est aussi, d'une certaine façon, qui manifeste une double appartenance artistique puisqu'elle est à la fois slameuse et conteuse et qu'elle intervient dans ces deux domaines artistiques. Son pseudonyme est justement Amalgame, donc ce qui évoque justement cette idée, ce qui évoque aussi le Amstramgram à mon sens. Et elle évoque à sa façon sa biculturalité à travers ce poème qui s'appelle Bipoème. Et donc je vous laisse le découvrir ici. On voit que le bi peut correspondre évidemment soit au préfixe latin, soit au verbe anglais bi, soit à la syllabe bi, vi en espagnol. Avec certains termes de ce poème qui sont porteurs d'une forme de réflexivité, puisqu'on a par exemple vitalidad, qui évoque justement la vitalité du poème à l'état vif en quelque sorte. L'atelier s'est déroulé en plusieurs étapes, donc une entrée en matière, je vais revenir successivement sur ces étapes, mais je m'intéresserai plus particulièrement à l'étape 2 d'écriture et oralisation, la deuxième étape. Pour ce qui est de l'entrée en matière, elle s'est déroulée en deux temps, puisque la slameuse a d'abord expliqué ce qu'on appelle son blaze, c'est-à-dire son pseudonyme, son nom de scène, Amalgame. Donc elle l'avait écrit au tableau comme on voit ici, ce qui a permis justement de mettre en évidence la notion d'amalgame au sens lexical du terme, mais aussi la notion de ludicité, avec la présence, si on tient compte évidemment de l'anglais, du mot game dans son pseudo. Ensuite, on s'est livré à un remue-ménage sur le slam qui visait l'émergence des représentations au travers des mots-clés évoqués. On voit ici bouche, spectacle, mot, scène, frappe, écriture, jeu. Et on peut dire que le remue-ménage ici fait déjà apparaître des échos entre langue romane, puisque le mot tintamarre a été souligné, et également tamaro en italien, qui relève apparemment de l'argot italien qui a été proposé par une étudiante. Le jeu, J-E-U, apparaît ici d'un bout à l'autre du tableau, puisqu'il m'apparaît comme un fondement de l'écriture slam, y compris au sens de marge, au sens où l'on parle d'avoir du jeu. Ainsi que l'idée de lien sur laquelle je reviendrai, lien entre les mots, entre les langues et entre les participants. Lors de la deuxième étape de cet atelier, donc nous avons travaillé sur des virlangues. Alors il faut souligner que le slam n'est pas sans lien avec les virlangues, qu'on appelle aussi formulette de volubilité dans le domaine du théâtre. Je vous en ai mis quelques exemples, je vous ai mis quelques extraits qui se rapprochent des virlangues. Un extrait d'Ivy, un texte de Grand Corps Malade qui s'intitule « J'ai mis des mots ». Qui est vraiment un exercice de style d'une certaine façon, hein, qui est vraiment une démonstration d'élocution au sens rhétorique de ce terme, donc vous pourrez aller l'écouter. Et je vais vous faire écouter un extrait d'un slammer local, en quelque sorte, hein, que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ici, et qui est parti justement d'un virlang, qui est celui-ci, « Suis-je bien chez ce cher Serge que je cherche ?» pour en faire un slam.
« Je l'ai dit ce slam à mon ami Serge. » Ce cher Serge, je dédie ce slam à mon ami Didier. Ce slam t'est dédié. D'ailleurs, c'est décidé, je t'en dédie ni un ni deux mais dix. J'aurais pu les dédier à Dédé, mais Dédé les samedis, c'est pas son dada, alors Dédé, tu l'as dans les dents. Ces dix slams sont dédiés à Didier.
Voilà, on va s'arrêter là. Il me semble que la recherche d'une expressivité sonore amène à des effets de musication du signifiant particulièrement éloquent ici. Et que cette recherche alliée à celle de ludicité peut être transposée didactiquement dans un contexte d'enseignement-apprentissage du français langue étrangère, ne serait-ce qu'en guise de mise en bouche, où là encore on a procédé en deux temps, c'est-à-dire qu'on a d'abord distribué aux apprenants des virlangues en français, on a d'abord demandé aux apprenantes de partager des virlangues dans leur langue maternelle, puis on leur a distribué des virlangues en français, après quoi elles devaient elles-mêmes créer un virlangue en français qui correspondait à leurs difficultés de prononciation. Je parle au féminin parce qu'en effet, il n'y avait que des filles dans ce séminaire. Je vais vous faire écouter ici juste un petit extrait qui montre plusieurs virlangues dans les langues maternelles des étudiantes. Je m'excuse pour la qualité de l'enregistrement, c'est vraiment un enregistrement avec le Natel, donc ce n'est pas très bon.
Elle met la barre très très haut.
Tu veux continuer? Sopra la panca la capra canta, sopra la panca la capra canta. Vous avez reconnu?
si vous entendez bien, mais l'étudiante italienne dit « si tu savais ce que j'ai dit ». Donc, je trouve que c'est intéressant pour la façon, justement, dont cette entrée en matière par le virlang déconstruit les représentations qui peuvent être liées à certaines langues et déconstruit d'une certaine façon la hiérarchie des langues aussi. Ensuite, il y a eu donc plusieurs étapes d'écriture. Je vais passer très vite sur cette étape de poème bilingue. Donc, les étudiantes étaient par deux. Elles devaient écrire avec deux langues en travaillant sur les allitérations. Puis, nous avons écrit des poèmes trilingues, dont on voit ici un extrait, autour d'une syllabe commune. Et je fais apparaître cet exemple parce qu'il y a le terme de magie qui apparaît ici et qui justement est en lien avec la citation de Souleymane Diamanka que je vous ai fait écouter tout à l'heure. On voit ici l'avant-dire oui, de cette étudiante qui est elle-même francophone, hein, qui est une Suisse romande, et qui a déjà planifié dans son texte la polyphonie d'une certaine façon, les deux interventions de ses partenaires dans cet exercice, dans ce jeu d'écriture. Alors les étudiantes se sont avérées vraiment ravies de ce partage de langue et de la magie qui se produit quand des mots issus de langues cultures éloignées se rencontrent dans cet espace-temps ouvert à tous les possibles. Et comme on le disait, même si les similarités entre les langues sont parfois difficiles à trouver a priori en raison de l'éloignement supposé des langues, comme pour Souleymane Diamanka et John Banzai, elles se révèlent ici par des manipulations de mots et de syntagmes au travers des langues mises en mouvement et aussi par des allers-retours entre oral et écrit, écrit et oral, qui donnent lieu justement à des jeux d'écho intéressants. La sémantique peut alors se construire dans un second temps. Je soulignerai ici simplement que la syllabe « ma », qui apparaît ici comme une syllabe commune, signifie « nous » en kurde. Donc l'étudiante a souligné ce fait qui apparaissait comme une magie, que le « ma », en fait, pour elle, c'est « nous » dans sa langue. Et je trouve que ce détail traduit symboliquement un investissement dans une tâche collective, une écriture partagée, du jeu de la voix, justement, de la langue maternelle, au « nous » de la page, qui est ici le lieu du partage. Ainsi, la présence de groupes hétérogènes qui met en présence et en interaction des langues maternelles très diverses avec des degrés très différents de familiarisation avec le français, c'est une constante des ateliers SLAM et elle permet, me semble-t-il, à l'hétérogénéité constitutive du groupe de devenir un élément moteur. L'atelier permet ainsi une prise en compte des différences, non seulement une répartition des rôles, mais aussi une écoute des voix au sein de chaque groupe. L'enjeu étant que chacun y trouve sa place, et telle est précisément la valeur fondamentale dont le slam est porteur, l'hospitalité. Donc ici, je cite Nathalie Auger pour ses recherches justement et pour ce concept d'hospitalité qui me semble tout à fait approprié. Elle parle ici plus généralement des pratiques artistiques pour souligner que ces activités sont des pratiques de interlinguistique, interculturelle. Elles favorisent la rencontre du déjà-là et de l'avenir. Elles ne nient pas l'avant, ne survalorisent pas l'après. Il semble ainsi que ces pratiques soient proches du concept d'hospitalité. Il s'agit bien, me semble-t-il, de déconstruire l'image du français comme langue haute ou haute, pour souligner ici les jeux de mots d'une certaine façon, pour l'envisager à sa hauteur et à ce titre enjouée, y compris au sens musical de ce terme, comme d'une langue haute. L'atelier slam apparaît alors comme un espace où chacun a droit à l'écoute, où les voix se mêlent mais ne se confondent pas, à l'opposé de l'une des acceptions de cette formule de tour de Babel. L'image me semble cependant intéressante pour, justement, si l'on considère toutes les ouvertures qui caractérisent la façade de cette tour dans ses représentations, qui peuvent apparaître comme autant de fenêtres créatives plurilingues. Je reprends ici la formule de Noël Matisse. Ainsi, le slam apparaît bien comme un dispositif hospitalier. L'atelier slam, ici, apparaît comme un dispositif particulièrement hospitalier, offrant à tout à chacun, à tous et à chacun, un espace de créativité et un horizon d'écoute. De ce point de vue, les ateliers slam peuvent être abordés comme des cercles d'écoute et d'écriture. L'image du cercle faisant référence à une circulation des idées, des mots, du flot et de la dynamique créative au sein du groupe. L'écriture elle-même se fait circulaire si l'on considère le rôle central de la répétition dans la poésie orale, en quoi le slam rejoint parfois la chanson. C'est un art, comme j'aime à le définir, de tourner autour du mot ou des mots. Et c'est pourquoi je propose cette notion de cercle d'écriture en écho au cercle de lecture et au cercle d'écoute, pour aller plus loin que ce que j'ai pu conceptualiser en termes d'écriture partagée. Ainsi, cette notion me permet d'aborder le potentiel de reliance poétique, selon le concept d'Edgar Morin que je cite ici, puisque l'atelier slam permet de relier les participants apprenants, aussi singuliers soient-ils, de relier leurs mots et leurs langues, et par là même les pièces de leur puzzle langagier et identitaire. Je reviendrai juste sur cette dernière citation d'Edgar Morin qui me semble important pour cette idée que les apprenants vont non seulement trouver leur voix, mais activer leur voix, Donc Edgar Morin a écrit justement pour définir cette notion de reliance qu'elle comble un vide conceptuel en donnant une nature substantive à ce qui n'était conçu qu'adjectivement et en donnant un caractère actif à ce substantif. Relié est passif, reliant est participant, reliance est activant. Je vous remercie pour votre attention.